Bonjour, ici Célia Héron, hôte et coproductrice du podcast Brise-Glace. Avant de vous laisser plonger dans notre toute nouvelle série audio, il n'y a qu'à m'expliquer, un mot pour vous signaler que les podcasts du temps se développent. Découvrez Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique, et bien d'autres encore sur la page letemps.ch/podcast. Et j'en profite pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement web et print sur la page letemps.ch/abonnement au pluriel. Bonne écoute!
C'était une sexologue. Et il y avait une fille qui venait justement parce qu'elle n'avait pas de désir sexuel. Puis elle lui dit « Ah, masturbez-vous jusqu'à ce que ça vienne. Regardez des films porno jusqu'à que ça vienne. » C'est quand même fou, enfin, d'imposer aux autres quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas besoin, en fait. C'est comme forcer quelqu'un qui n'aime pas, la cuisine chinoise à manger tous les jours des nems. Enfin, il y a un truc où c'est contre-productif, en fait.
Bienvenue dans Brise-Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Pour ce premier podcast, on a eu envie de plonger tête la première dans tous les sujets qu'on évite soigneusement lors des conversations polies, ces sujets qui dérangent parce qu'ils nous mettent face à nos préjugés. On s'est tous demandé un jour si notre sexualité était normale. Peut-être parce qu'on avait lu quelque part qu'il fallait faire l'amour tant de fois par semaine pour une sexualité saine, ou fallait prendre sur nous pour raviver la flamme. Louisa, 30 ans, elle est asexuelle. Ça veut dire que elle n'est attirée par personne, jamais, à peu près, et elle le vit très bien. Elle a fait son coming out il y a 6 mois, après des années de doutes et de questionnements.
Ça fait un moment que je me pose la question, que je me questionne sur tout ce qui est sexualité, et puis je crois que récemment j'ai réussi à mettre le doigt dessus en fait. J'ai l'impression que cette asexualité, elle commençait à bouillonner en moi, puis elle voulait sortir. Alors ça sortait vraiment de façon assez, très forte. Autant quand j'étais très très amoureuse, l'acte me demandait moins, parce que j'avais ce besoin, cette envie de connexion, qu'elle soit pas sexuelle, mais qui se crée, comme j'avais pas encore mis le doigt dessus, via quand même un échange corporel. Mais après, quand j'ai vu que c'était un garçon que j'aimais bien, mais j'étais pas amoureuse de lui. Alors le sexe, ça me demandait. C'était trop de me demander, vraiment. Il avait un chat, et puis dès que le chat venait, quand j'étais yes, sauvé par le gong. Mais je pense qu'il sentait. Parce que chaque fois, il venait, et il se posait sur moi, mais vraiment, comme une sorte de bouclier. Et c'est là que je me suis dit, prends-toi du temps pour déconstruire ça. Ça va paraître ridicule, mais je regardais une série qui s'appelle BoJack Horseman. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est sur Netflix. Et c'est un dessin animé, en fait, mais c'est pour les adultes. Et il y a un des personnages, à un moment, qui flirte avec une fille, et puis il doit coucher avec elle, et puis il réalise, en fait, qu'il n'a pas envie, et puis qu'il s'en fiche. Et à un moment, il va vers BoJack, et puis il lui dit « Ah, mais je crois que je suis asexuelle. » Le thème est développé. Puis je dis « Mais en fait, ça m'a ouvert les yeux. » Je dis « Mais putain, mais c'est ça, en fait, je suis aussi... » En fait, c'est comme si j'avais toujours su, mais qu'on m'avait jamais dit que ça existait. Et que je pensais, longtemps j'ai pensé qu'il y avait un problème avec ma sexualité. Parce que longtemps j'ai fait des tests hormonaux pour savoir si j'avais pas un dérèglement. Enfin, je comprenais pas d'où ça venait. Et en fait, j'ai compris aussi en allant voir sur Internet que ça existait, puis que c'était assez plus répandu qu'on pensait. C'est pour ça aussi que je me dis, pas que je me dois, mais c'est pour moi important de faire un coming out un peu public, même si j'aimerais pas qu'on mette l'étiquette asexuelle à vie. Je pense que c'est important quand même d'en parler, puis d'en parler sans tabou. Et puis souvent on me dit « Ah, mais si tu veux témoigner anonymement », puis je me dis « Ah, mais non, mais ce serait contre-productif, parce que ce serait témoigner de quelque chose dont on doit être fier, et puis ok, mais anonymement, du coup... » Puis après, je comprends les gens qui n'ont pas envie de le faire, parce que c'est vraiment quelque chose de très intime, et puis ils se disent aussi « Ça regarde que moi ». Mais en fait, moi, je me dis que l'ayant fait sur les réseaux sociaux, puis ayant remarqué que ça libérait certaines personnes, je me dis « Mais je suis contente de l'avoir fait pour moi, parce que ça m'a beaucoup libérée, mais aussi pour les autres, en fait. »
Vous parliez à l'instant d'un coming out. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça s'est passé, ce jour-là, entre guillemets, ce coming out? Vous l'avez fait auprès de vos proches, vos parents ou...
Non, mes parents pas. Bon, mon père est décédé, puis ma mère, je ne lui parle pas tellement de ça. Mais en fait, j'avais besoin de plus me mentir à moi-même. C'est comme si pendant longtemps je m'étais menti à moi-même en disant ah mais en fait peut-être que t'es quelqu'un de sexuel mais c'est compliqué. Et puis en fait j'avais besoin de dire non mais toi ça t'intéresse pas, ça t'a jamais intéressé, fais pas semblant, enfin libère-toi de ce truc. Je pense que c'était vraiment face à moi. Et j'en ai parlé aussi à un ami qui est prof de yoga. Et puis je lui ai dit, mais est-ce que tu penses que je devrais aller voir un psy? Putain, mais pourquoi tu irais voir un psy? Enfin, t'as pas... C'est comme dire à quelqu'un qui est homo, me va voir un psy. C'est un peu genre, mais non, enfin, je suis très bien avec... Si j'en souffrais, je pense qu'il y a des gens qui en souffrent. Et du coup, c'est cool d'aller voir un psy, mais tant que ça pose pas de problème, ni à soi-même, ni aux autres. J'écoutais un podcast tout à l'heure sur France Inter, et c'était une sexologue. Et il y avait une fille qui venait justement parce qu'elle n'avait pas de désir sexuel. Puis elle lui dit, ah, masturbez-vous tous les jours. Enfin, il y avait des conseils où je me disais, si on me disait ça, je crois que je tomberais des... Enfin, peut-être cette fille est asexuelle et puis on lui dit genre, masturbez-vous jusqu'à ce que ça vienne. Regardez des films porno jusqu'à ce que ça vienne. Je dis, c'est quand même fou, enfin, d'imposer aux autres quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas besoin, en fait, parce que tout le monde est fait différemment. Alors, j'écoutais ce podcast tout à l'heure, je disais, oh, bah, heureusement que je ne suis pas passée par cette phase. Parce qu'ayant été très influençable jeune, je me serais fait du mal encore plus, parce que quand on n'est pas intéressé par le sexe et puis qu'on nous force à regarder des films porno, c'est comme forcer quelqu'un qui n'aime pas, je sais pas, la cuisine chinoise à manger tous les jours des nems. Enfin, il y a un truc où c'est contre-productif, en fait.
Quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous avez justement regardé des films porno ou pas du tout?
Oui, je me rappelle, assez jeune, je suis tombée dessus. J'en ai pas regardé des tonnes, mais un temps, j'étais très intéressée par la culture porn. Puis je le suis encore beaucoup. Et je regardais des films porno, mais je savais bien. Enfin, je voyais pas l'intérêt. C'est comme si on m'avait dit, pour avoir une sexualité épanouie, faut se masturber, faut regarder des films porno, faut coucher tant de fois avec tant de... Enfin, puis après, j'ai réussi à me déconditionner de ça, en fait.
Mais c'est vrai que c'est dur parce que beaucoup de magazines féminins notamment, toute la presse spécialisée, titrent tous les étés sur les meilleurs conseils pour s'envoyer en l'air. Donc je comprends bien que ce soit pas évident de se sortir de ça une fois qu'on a grandi dans un monde où l'injonction à la sexualité est si forte en fait.
Oui, non, c'est fou. Et puis que ça soit comme vous dites, les magazines ou rien que les amis. Souvent, on peut passer des soirées à parler que de cul. Puis moi, c'est un sujet qui m'intéresse, du coup ça va, parce que j'aime bien aussi le déconstruire et tout. Je trouve la sexualité super belle et c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément. Il y a quand même un décalage, parce que je pense qu'il y a une émotion qui est générée chez elles ou chez eux, qui est moins présente chez moi, parce que comme je m'en fous un peu personnellement, avec mes amis, on parle de sexualité dans le sens large du terme. On parle pas de cul, en fait. Mais j'ai aucun jugement sur la sexualité des autres. Au contraire, je trouve que même ouais, les tabous, les fétichismes, il faudrait que tout le monde puisse en parler. Au contraire, dès que quelqu'un m'avoue un fétichisme, je me dis « Ah, mais je suis la seule personne à qui t'ose dire ça, c'est dommage. » Enfin, il y a cette impossibilité d'être hors norme, en fait, qui fait beaucoup plus de mal que de dire « Ah, bah écoute, je suis fétichiste des chaussures » ou bien « J'aime bien qu'on me pisse dessus. » Enfin, la frustration que génère le tabou est beaucoup plus dangereuse que le tabou en lui-même.
Quand on est adolescent, on a justement cette tendance à vouloir être dans la norme, à vouloir se conformer, vouloir appartenir à un groupe. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'exploration de votre sexualité au tout début de cette sexualité?
Alors, depuis la genèse, parce que moi ça me va. Hein.
Oui, depuis la genèse, oui.
C'est vrai que quand j'étais toute petite, j'étais très intéressée par la sexualité. Les prostituées me passionnaient. Je dessinais des prostituées, mais toute la journée, avec des habits en latex et tout. C'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Et puis, très sexy, pas des dessins pour qu'on pense les enfants dessinent une prostituée, genre avec un 5 à main et puis des talons hauts. Elles avaient vraiment des tenues en latex avec les seins qui sortaient. Enfin, des trucs, je me demande où j'ai vu ça, Dieu sait. Mais je ne regarde pas un mauvais souvenir, au contraire. Je me rappelle qu'avec ma cousine, justement, on avait dessiné des dessins porno et on les avait cachés dans des vinyles chez ma grand-mère. Puis un jour, on a voulu les rechercher, puis ils n'étaient plus là. Bon, on n'a jamais reparlé, mais c'est toujours le moment gênant. On dit, hein, quelqu'un sait, mais qui? Je trouvais que c'était des femmes fortes, enfin. Il y avait un truc très admiratif, en fait, de la prostituée. Mais... Puis après, je pense que ça m'est passé avec le temps. J'ai un peu joué à touche-pipi avec des copines, enfin, comme Puis je pense qu'avec mon frère, on essaie de toucher le bout de la langue, mais je pense que tous les gamins font ça, ou peut-être pas, puis qu'en fait, je suis weirdo, mais...
La toute première fois que vous avez exploré votre corps et que vous avez été amené à vous masturber, est-ce que vous avez, à ce moment-là déjà, senti que vous étiez différente? Comment est-ce que vous conceviez à cet âge-là la masturbation?
Pour moi, j'ai l'impression, mais c'est vraiment un truc... propre analyse, les enfants justement ils ont une sexualité vraiment d'eux-mêmes à eux-mêmes, ils découvrent leur corps, ils découvrent le plaisir que ça fait, enfin ils jouent avec, mais c'est pas généré par quelqu'un de l'extérieur, comme s'ils étaient tous un peu asexuels en fait. Ça, je pense que c'est super rare de trouver une petite fille de 7-8 ans qui se masturbe devant le portrait, enfin l'image de quelqu'un. C'est vraiment, on se tripote et puis on dit ah ben, c'est marrant, ça me fait toute chose quand je touche là, mais il n'y a pas ce désir, cette attirance de l'autre.
Comment est-ce que vous avez vécu, vous, votre asexualité, même si à l'époque, vous ne saviez pas encore la nommer, quand vous étiez ado?
Quand on est ado, on est tellement dans la découverte qu'on passe par plusieurs phases. Il y a une youtubeuse qui est assez jeune et puis qui a très vite compris qu'elle était asexuelle. Mais je pense que c'est la nouvelle génération. J'ai quand même 30 ans. Et c'est vrai qu'il y avait moins, j'ai l'impression, quand j'avais 13-14 ans, il y avait moins de débats là-dessus. Mais j'ai découvert la sexualité active assez tard, à 18 ans. Et puis je voulais un peu passer à l'acte parce que je voyais que c'était un peu le moment. J'avais l'impression que ma virginité devenait un fardeau. Alors je suis passée à l'acte avec quelqu'un de beaucoup plus âgé que moi. Et c'était vraiment pas la meilleure relation que j'ai eue. Je voyais que lui, il s'en fichait en fait complètement. Il était très content de tomber sur une jeune fille qui voulait bien essayer des choses. Et puis, rétrospectivement, quand je vois maintenant que j'ai l'âge de cette personne, je me dis, mais c'était pas cool en fait. Quand j'avais 18 ans et puis lui 30, je me dis, mais c'est... Il n'y a pas de souci. Enfin, je voyais pas le côté un peu prise de pouvoir en fait. Au début, je voulais. Puis pendant, je me suis dit peut-être un peu genre... Ah, ça craint. Je pense qu'on sent quand quelqu'un n'est pas consentant, mais rien que dans l'attitude, quand quelqu'un n'est plus dans le truc ou qu'il est en train de souffrir ou bien qu'il est ailleurs, on n'a pas besoin d'un nom clair pour voir que l'autre, il est plus à l'aise. Je pense que cette personne, peut-être, ne l'a pas remarqué parce que des fois, peut-être qu'il était tellement dans l'action qu'il n'a pas vu que moi, j'étais ailleurs. Mais dès que je parle à des copines première expérience, c'est souvent le même genre d'histoire qui ressortent.
Ouais, parce qu'il y a l'histoire du consentement avec l'autre, il y a aussi l'histoire du consentement envers soi-même, où parfois voilà. On s'auto-oblige.
Exactement. Je pense que moi, j'ai surtout été victime du consentement envers moi-même. Justement, comme il y avait cette asexualité qui était là, mais sans être encore très là, je voyais que je me suis beaucoup forcée à faire des choses que je n'avais pas envie, forcément. C'est un peu l'appétit vient en mangeant. Ben, moi, souvent, ça venait pas.
Et ça, dès le tout début d'une relation, parce que parfois, on peut aussi se dire que c'est normal qu'au fil d'une relation, le désir s'érode. Mais non, vous, ce que vous décrivez, c'est dès le début, c'était toujours
oui,
comme ça.
Oui, c'est souvent dès le début, parce que voilà, j'ai rencontré dernièrement un jeune garçon qui me plaisait, mais absolument sur tous les points, je le trouvais génial et tout. Puis, on a passé une super bonne soirée, et puis dès qu'il y a eu le moment où il s'est approché de moi, je me suis dit, ah shit, alors qu'il me plaisait, même. Mais le moment est arrivé, j'aurais préféré qu'on passe toute la soirée, toute la nuit à rigoler et boire des verres.
Bah là, lui, justement, comment est-ce que vous avez amené le sujet? Qu'est-ce que vous avez fait?
Lui, c'était un peu compliqué parce que lui, il était déjà pris par quelqu'un d'autre. Et puis, en fait, lui, il n'avait pas envie d'entrer en relation avec moi, quelle qu'elle soit. Mais du coup, j'ai pu lui dire parce que bon, on est encore amis, enfin, on se voit comme ça. Ça m'a aidé, en fait. Je crois que ça m'a aidé à. Je crois qu'il est tombé vraiment au bon moment. Pour que la prochaine fois que je rencontre quelqu'un, je puisse lui dire avant que je sois confrontée à cette sexualité. Parce que c'est vrai que je pense, du coup, il a dû trouver étrange, je pense. Mais je lui en ai parlé, puis lui, il avait un peu rien à foutre. Il fait, oh, bah, ok, enfin, pas rien à foutre méprisant, mais il était là. Oh, bah, cool, un peu cool pour toi, quoi.
Cool pour toi que tu t'acceptes et, voilà, que tu en parles sans tabou, quoi.
Voilà.
Est-ce qu'il y a des réactions, quand vous l'avez dit autour de vous, qui vous ont étonné, attristé, choqué?
Pas de mes proches, mais j'ai eu deux réactions qui m'ont choquée. Alors une, c'était au tout début de mon coming out et j'étais super bien. J'avais dit à mes amis, j'en avais pas encore parlé publiquement. Instant de prévention pour le sida. Et il y a un jeune homme qui vient, ah, mais t'as pas deux secondes, pour, j'ai deux questions à te poser, si ça te dit. Et c'était la première personne à qui j'allais dire. Et il me fait, ah, première question, est-ce que t'aimes faire l'amour? Comme tout le monde t'aime faire l'amour. Hein. Et puis je lui fais, ah, bah ça tombe bien parce que moi en fait je suis asexuelle. Puis il me dit, mais tu veux pas le numéro de Stop Suicide? Non, mais passe ta vie, franchement, si t'aimes pas faire l'amour, ça doit être la déprime. Et puis il me redit, je te donne le numéro de Stop Suicide. Et ça m'a tellement émue, je lui ai dit, mais tu peux pas dire ça à quelqu'un d'asexuel, enfin tu peux pas dire ça à qui que ce soit. C'est comme si tu disais à quelqu'un d'homo, hey, tu veux pas aller te suicider, parce que... enfin, je fais pas le lien parce que je sais que la communauté homosexuelle c'est beaucoup plus difficile, ils sont tout le temps plus face à justement des jugements, enfin c'est pas du tout le même combat. Mais de dire ça, enfin j'ai trouvé d'une violence, je suis rentrée chez moi et je pense que... J'ai crié, j'ai pleuré, ça faisait des mois que j'avais pas pleuré. Et ça m'a foutu dans une rage folle, en fait. Cette injustice, en fait, c'était la première fois que je faisais mon coming out à quelqu'un d'inconnu. Et je m'en suis pris plein la face, c'était d'une violence, en fait, ce jugement. J'ai écrit à mon frère, qui était là, mais tu sais, il y a des cons, il y en a partout. Et puis après, j'en ai parlé à une copine qui m'a dit, ah, écris-leur, dis-leur que c'est inadmissible. En soi, je crois qu'elle a raison. Puis après, en fait, je me suis dit, il a fait un gag qui est mal passé. Enfin, je pense qu'il s'est senti encore plus con que moi après, parce qu'il a vu que j'étais tout émue. Mais le truc drôle, c'est que 3 jours plus tard, je l'ai recroisé, puis il m'a fait, hé, hey, t'as pas 2 secondes? Puis j'ai dit non, je crois que j'ai donné, franchement. Et puis ça, c'était un des trucs les plus violents. Puis aussi un truc très violent, une connaissance, presque un ami, qui m'a dit, ah, mais vous, les asexuels, c'est pas grave si on vous viole, parce que de toute façon, ça vous fait rien. Et j'étais là un peu, c'était un peu de l'humour trash, un peu genre, j'étais un peu, ouais, enfin, personne n'aimerait être violé, que tu sois asexuel ou très sexuel, mais je trouvais ça un peu too much. Je crois que certaines personnes, en faisant encore d'être pris par la main, en fait, pour eux c'est évident que c'est possible, mais on les a tellement habitués que ça le soit pas, qu'ils disent des trucs complètement bateaux, sans aller chercher en eux-mêmes des réflexions par rapport à ce qu'ils ressentent là-dessus, en fait.
Ma cousine, qui est aussi ma meilleure amie, à un moment, une fois, elle m'a dit... alors qu'elle, elle est très sexuelle. Et puis elle m'a dit, ah ouais, moi, je me suis aussi demandé si j'étais pas sexuelle, parce que bon, j'avais pas envie, et puis genre un peu, je vois ce que tu traverses. Enfin, c'est peut-être pas ça qu'elle voulait dire, mais moi, je l'ai ressenti comme ça, parce que c'était en plein coming out. Et puis peut-être c'est pas du tout ça qu'elle voulait dire. Si elle m'écoute... qu'elle ne me juge pas. Mais en fait, je me suis dit, mais ce n'est pas du tout le même combat, parce que moi, c'est vrai qu'en tant qu'asexuelle, ben, c'est tout un parcours de vie que je vais devoir construire, en fait, de rencontrer quelqu'un qui l'accepte. Et puis, c'est vraiment aussi déconstruire, se dire, mais peut-être que jamais de ma vie, j'ai rencontré quelqu'un qui me plaira et qui, en plus, acceptera cette différence. Tandis qu'on a une perte de libido, tout d'un coup, on rencontre quelqu'un dont on est amoureux, puis ça revient. Tandis que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée. Et puis maintenant que j'ai accepté, il faut que les autres l'acceptent aussi. Mais en même temps, je sais que peut-être qu'un jour, tout d'un coup, peut-être je vais rencontrer quelqu'un et puis je sais pas d'où ça sortirait. J'aurais super envie de lui ou d'elle. La vie, c'est ça qui est beau aussi, c'est que c'est fluide en fait. Là, on m'a écrit dernièrement, ouais, j'ai fait vœu de célibat, mais en même temps, j'ai une fille, j'ai une sex friend. Mais je vois ce que tu traites. C'est pas du tout pareil. C'est presque le contraire en fait. Moi, j'ai pas fait vœu de célibat. C'est juste que je suis comme ça, quoi.
Comment vous envisagez vos relations à l'avenir? Est-ce que, donc on a bien compris qu'on peut dissocier la vie sexuelle de la vie de couple et tout à fait passer sa vie dans une relation, disons, amoureuse,
ouais,
sans qu'il y ait une part importante de sexualité qui fasse partie intégrante de cette vie amoureuse. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir?
Je sais pas, je suis pas tellement à me projeter. Je vous dis, chaque rencontre est tellement différente que... on verra bien, mais je sais que pas mal d'asexuels, il y a beaucoup ce débat dans la communauté, genre des gens qui sont en couple et qui prennent sur eux, et puis de temps en temps, ben qui couchent avec leur partenaire, ben, parce qu'ils les aiment aussi, rien qu'une sorte de don de soi et puis d'envie de rapprochement, et d'autres qui sont dans des couples libres justement, qui sont avec quelqu'un mais qui le laissent aller voir ailleurs, et d'autres qui sont avec quelqu'un qui accepte complètement et puis qui n'ont pas de rapport. Il y a tellement de facettes. Avec mon ancien conjoint, on pratiquait le tantra. Et puis c'est plus de l'ordre du massage ou d'échange d'énergie. Et c'est pas forcément avec de la pénétration ni sexuelle, mais c'est aussi un échange physique, en fait. C'est assez intense, on peut aussi avoir des orgasmes avec le tantra.
Pour nos auditeurs qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit, est-ce que vous pourriez un petit peu décrire
Je ne suis pas une spécialiste, mais c'est... Le tantra, c'est une sorte de yoga qui vient du Cachemire, et puis c'est aussi une philosophie de vie. C'est pas... On a l'image du tantra où c'est des exercices sexuels pour tenir pendant des heures en érection. Et... En fait, c'est vraiment c'est un travail d'énergie, en fait. De faire circuler les énergies déjà en soi, puis avec l'autre. C'est beaucoup des exercices respiratoires, en fait, à la base. Et de connaître, justement, son corps. Et d'abord, c'est du respiratoire, après, c'est lors du toucher. Et ça va aussi beaucoup avec une philosophie de vie. C'est quelque chose de très doux, et c'est quelque chose aussi qui peut être très fort, parce qu'il y a vraiment un échange... total qui se fait avec l'autre, parce que souvent on a des partenaires de tantra, bon j'en ai pas parce que c'est pas du tout quelque chose que je recherche, mais qui sont pas forcément notre conjoint, et on les a pendant des années. C'est assez intéressant en fait pour, je trouve, de découvrir un autre aspect de l'échange avec l'autre, sans passer par la case sexy time.
Est-ce que aujourd'hui, il y a des moments où vous ressentez malgré tout l'envie, par exemple, de vous procurer du plaisir à vous-même via la masturbation ?
Non, pas du tout. Un temps, je le faisais un peu, parce que je me disais, mais est-ce que c'est ça d'être en bonne santé, en fait ? J'avais cette image, pour être en bonne santé, il faut se masturber, parce que ben, on nous le dit. En fait, j'ai remarqué que j'avais jamais envie, en fait. Des fois, quand je vois que je suis trop excitée, mais pas sexuellement, mais... Genre, je rentre d'une soirée, je suis à fond, et puis je dis, mais pour dormir, vraiment ce truc, je me masturbe, après je sais qu'en 2 secondes je m'endors, et puis c'est fait. Mais c'est vraiment comme quelqu'un prendre un somnifère, c'est vraiment mécanique.
Donc ça prouve qu'il n'y a vraiment aucun lien entre faculté du corps à jouir,
ouais,
et à sexualité.
Non, parce que si je couche avec quelqu'un, mon corps réagit au stimuli, enfin il y a vraiment... Mais c'est que j'ai pas l'envie, enfin. C'est vraiment au niveau, je dirais pas du cerveau, parce que c'est un peu basique de dire ça, mais c'est l'envie, en fait.
Mais ça fait pas de mal de le rappeler, parce que je pense qu'il y a un énorme cliché qui est la femme asexuelle est donc frigide.
Exactement, non, c'est bien de le rappeler, parce que, ouais, exactement. Ou bien, c'est parce que t'as été mal baisée, ou parce que tu trouves personne, et puis, enfin, je sais pas, un problème de trouver quelqu'un, surtout maintenant avec. Avec Tinder et tout ça, franchement, si on a envie de tirer un coup, ouais, il n'y a aucun lien, en fait.
En ce moment, vous êtes en couple ?
Non. Je l'ai été il y a une année, puis mon copain est parti. Après, j'ai eu une sorte d'histoire pendant quelques mois. Puis en fait, là, j'étais déjà en train de voir que c'était pas ça du tout. Je vois que maintenant, comme je suis bien avec moi-même, j'aurais pas envie de me mettre avec quelqu'un par défaut... pour être en couple. Le couple ne m'intéresse pas forcément. La vie est faite de rencontres qui viennent et puis qui passent. Mais je ne cherche pas du tout à être en couple. Et puis je ne cherche pas du tout à être célibataire. C'est vraiment... Je crois que je me contente assez bien de ce qui se présente.
Est-ce qu'on vous dit parfois, mais c'est probablement parce que tu n'as pas trouvé ton identité sexuelle ?
Non, on me l'a très peu fait. On ne me l'a pas du tout sorti, en fait. Mais je me suis demandé, quand j'ai commencé à voir que les garçons ne m'attiraient pas, je me suis dit, mais peut-être que c'est les filles qui m'attirent. Puis en fait, je me suis dit, non, les garçons m'attirent. Vraiment, leur beauté m'émeut, tout. Mais, enfin, c'est les garçons avec qui j'ai envie d'entrer en relation amoureuse. Mais... Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, je suis pas, c'est pas que je suis homo, c'est que. C'est juste que je suis asexuelle, en fait.
Et quand vous dites, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, leur beauté m'émeut, quel genre de contact vous chercheriez alors avec la personne, par exemple, qui vous plaît, qui vous séduit, que vous trouvez charmante ?
J'aime bien, je sais pas, j'allais dire tripoter le visage des gens, mais ça fait un peu creepy. Non, je suis quelqu'un d'assez tactile, mais je pense que je peux me satisfaire justement de papouille, de massage, du toucher en fait. En fait, je crois que c'est vraiment quand il y a de l'ordre de l'excitation sexuelle, c'est là où pour moi ça devient un terrain glissant parce que ça me bloque en fait. Pas ça me bloque, ça me traumatise, mais... Ça, comme ça ne m'intéresse pas, j'ai l'impression d'être prise dans un jeu qui ne me convient pas. C'est comme si elle n'avait pas sa place avec moi, en fait. Des fois, j'avais ressenti comme si quelqu'un qui voulait coucher avec moi, j'avais l'impression que c'était comme quelqu'un qui voudrait coucher avec un, pas un enfant, mais que moi, je n'ai pas ce désir sexuel. Il y a une sorte de... La connexion ne se fait pas. Et pour moi, c'est assez perturbant. Puis je pense que ma personne en face aussi. Bon, après, moi, j'ai appris à faire semblant. Et ça, je n'ai plus envie, en fait. Mon dernier copain, justement, avec qui je faisais du tantra, quand il m'a quitté, il m'a dit, une des dernières phrases qu'il m'a dit, il me dit, mais tu verras, il faut que tu comprennes qu'on peut t'aimer sans avoir envie de coucher avec toi. À l'époque, je pensais que c'était un peu genre, fous-moi la paix. Et puis en fait, je pense qu'il avait bien senti que pour moi, c'était pas naturel. Et puis plusieurs fois, il m'avait dit, il avait remarqué que je sollicitais pas beaucoup. Je sollicite pas le partenaire parce que comme j'y pense pas. Ou bien je sollicite trop parce que je me dis, mais il faut que je fasse tant de, une sorte de quota. Mais maintenant, je ferai plus. Enfin, je vois que c'est dur de se déconditionner de trucs, mais une fois que c'est fait, on retombe pas tellement dans les mêmes panneaux. Enfin, je dis ça, puis. On ne sait jamais.
Pourquoi est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est si important d'en parler, enfin ?
Je pense que c'est bien d'en parler parce que ça libère les gens, en fait. Moi, je vois que ça m'a beaucoup libérée, puis je me dis si ça peut libérer d'autres gens. Puis aussi pour que les gens se rendent compte que tout le monde est différent, pour éviter aussi des réactions comme j'ai eu droit, et pour que les gens se rendent compte que tout est vraiment... J'insiste beaucoup là-dessus, mais que tout est fluide, et que c'est OK de passer par plusieurs étapes dans la vie, et que... Et d'en parler, ça fait du bien. Moi, je vois que ça m'a fait du bien et que ça m'a aidé aussi à plus reproduire des schémas que j'avais produits avant et qui ne me convenaient pas, en fait. Quand je me mentais à moi-même, je mentais aussi aux autres. Même si j'avais envie d'eux dans le sens entier du terme, il y avait quelque chose qui devait sonner faux, en fait.
Pour les gens qui nous écoutent et qui se posent peut-être des questions sur leur propre sexualité, sur la sexualité, qu'est-ce que vous aimeriez éventuellement leur dire ?
D'être ok avec ça, en fait, de pas trop se forcer à faire des choses qu'ils ont pas envie de faire juste pour être dans une norme, de s'écouter, en fait, s'écouter soi-même et puis d'aller voir ce qui nous appartient à nous-mêmes et puis ce que la société nous a fait croire qui nous appartenait, en fait.
Merci d'avoir écouté Brise-glace. Je suis Célia Héron et cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum avant d'être monté et mixé par Adrien Samaki Yablou. Vous pourrez retrouver tous les épisodes de Brise-glace sur le site du Temps sous l'onglet Podcast ou sur iTunes et SoundCloud. Faites-nous part de vos impressions et commentaires sur Twitter, Facebook ou à l'adresse briseglace@letemps.ch. Et si ce podcast vous a plu, dites-le nous sur iTunes avec des étoiles. À dans 15 jours!